VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Mouamadou Oumfa pour vous présenter le monde aujourd'hui, édition du vendredi 22 décembre 2023. Il est 7h en temps universel, voici le sommaire. La France a décidé de fermer son ambassade au Niger où elle n'est plus en capacité de fonctionner, assurent des sources diplomatiques françaises. Élection générale du 20 décembre en RDC, les premiers résultats sont attendus ce vendredi après deux jours de scrutin marqués par de multiples problèmes logistiques. En Côte d'Ivoire, le congrès du PDCI suspendu samedi dernier par la justice doit finalement se tenir ce vendredi dans la capitale Yamoussoukro, objectif pour la principale formation d'opposition, élire un nouveau chef pour tenter de revenir au pouvoir en 2025. Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a fait pression en 2020 sur deux agents électoraux pour ne pas certifier la victoire de Joe Biden dans le Michigan. C'est ce que révèle l'enregistrement d'un appel téléphonique. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Eric Manirakiza. Mais pour commencer, le journal. La France a décidé de fermer son ambassade au Niger, on fait savoir jeudi des sources diplomatiques, actant définitivement un divorce entre les deux pays. L'ambassade n'est plus en capacité de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions. Prenant acte de cette situation, nous avons décidé la fermeture prochaine de notre ambassade et dans ce cadre dû procéder au licenciement et à l'indemnisation de nos agents de droit local, ont précisé ces sources. Cette mesure intervient alors que les derniers soldats français, des derniers militaires français déployés au Niger doivent quitter le pays ce vendredi. Le retrait des 1500 soldats et aviateurs français du Niger, le dernier pays allié de Paris au Sahel avant l'arrivée des généraux au pouvoir le 26 juillet, fait suite à ceux du Mali et du Burkina Faso où la France a également été poussée vers la sortie. En République démocratique du Congo, les élections commençaient le 20 décembre et qui se sont poursuivies jeudi dans les bureaux de vote qui n'avaient pas pu ouvrir le premier jour sont désormais closes. Après les dépouillements et selon le deuxième vice-président de la commission électorale, les premières tendances pourraient commencer à tomber ce vendredi. Les précisions avec John Lindon, notre envoyé spécial à Kinshasa.
Jusqu'à très tard hier soir, certains Congolais votaient encore. Dans certains bureaux à travers le pays, on poursuivait aussi le dépouillement après une deuxième journée de vote rendue nécessaire par de multiples problèmes logistiques qui avaient empêché des bureaux de vote d'ouvrir la veille dans plusieurs régions du pays. Il est difficile d'estimer combien de bureaux sur un total d'environ 75 000 étaient concernés par la prolongation du vote décidé la veille au soir d'une première journée particulièrement compliquée. Alors que des bureaux votaient encore, mais que le dépouillement était déjà fait dans d'autres, un responsable de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a annoncé en début d'après-midi que le vote s'acheverait bien dans la soirée et que les tout premiers résultats partiels de la présidentielle seraient publiés vendredi. Le président sortant, Félix Tshisekedi, brigue un second mandat face à 18 autres candidats, dont plusieurs poids lourds de l'opposition qui ont dénoncé le chaos et les irrégularités entachant, selon eux, ces élections générales. John Linden, envoyé spécial de VOA Afrique à Kinshasa.
Le congrès du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, suspendu samedi dernier par la justice, doit finalement se tenir ce vendredi dans la capitale Yamoussoukro. Objectif pour la principale formation d'opposition, élire un nouveau chef pour tenter de revenir au pouvoir lors de la présidentielle de 2025. Deux candidats sont en lice pour briguer ce poste, le banquier ivoiro-français Tidiane Thiam et le maire de la commune abidjanaise de Cocody, Jean-Marc Yassé. Initialement programmé samedi le 16 décembre, à Abidjan. L'événement a d'abord été suspendu à la dernière minute par la justice ivoirienne, saisie par deux militants qui dénonçaient des irrégularités dans la liste des congressistes. Les deux militants ont à nouveau saisi la justice avant de finalement capituler jeudi et de retirer leur plainte à l'issue d'une audience de plus de 3 heures au tribunal d'Abidjan. Le premier ministre sénégalais Amadou Ba s'est engagé jeudi à mener le pays vers le progrès et pour plus de paix et de prospérité lors de son investiture par le parti au pouvoir pour la présidentielle du 25 février en présence du sortant Macky Sall qu'il a désigné pour lui succéder. Les délégués du parti présidentiel déclarent le premier ministre Amadou Ba candidat de cette formation et de la coalition présidentielle, indique une résolution lue par un porte-parole, Seydou Gueye. Chef du gouvernement depuis septembre 2022, ministre des Affaires étrangères jusqu'en 2020 et ministre de l'économie et des finances de 2013 à 2019, Monsieur Ba est un inspecteur des impôts sorti de l'École nationale d'administration et de magistrature de Dakar. Plus de 200 candidatures sont, selon la presse, déclarées pour la présidentielle, dont celle de dissidents du parti présidentiel. En Guinée, le bilan de l'explosion et de l'incendie du principal dépôt de carburant du pays est passé de 18 à 23 morts jeudi, a annoncé le gouvernement, alors que des heurts ont opposé le même jour à Conakry les forces de sécurité à des groupes de jeunes réclamant de l'essence dans les stations-service. Michel Joseph.
Des affrontements ont opposé sporadiquement hier des groupes de jeunes jetant des pierres à des forces de défense massivement déployées qui ont riposté en tirant du gaz lacrymogène. Des centaines de jeunes cagouglés ou masqués ont barricadé la route menant des périphéries au centre de Conakry. Ils ont érigé des barricades, renversé des poubelles et brûlé des pneus. Beaucoup de jeunes Guinéens vivent des courses en moto-taxi. Ils exigent la réouverture des stations-service. Le gouvernement a annoncé la reprise de l'approvisionnement en gazoil, mais la distribution d'essence reste coupée et la restriction des camions-citernes est maintenue. Le colonel Mamadi Doumbouya a annoncé hier un deuil national de 3 jours en hommage aux 18 personnes tuées et plus de 200 blessées lors de l'explosion et l'incendie dans le centre-ville de Conakry qui ont laissé des centaines de ménages sinistrés, entraînés d'importants dégâts matériels et continuent de paralyser en partie l'économie du pays.
L'ambassadeur du Mali à Alger a été convoqué hier au ministère algérien des Affaires étrangères au lendemain de la convocation par Bamako de l'ambassadeur d'Algérie au Mali. Plus de détails avec Jean-Roger Billon.
Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a rappelé à l'ambassadeur malien Mahman Amadou Maïga que l'Algérie tient à l'attachement sans faille à l'intégrité et à l'unité du Mali, à la voie pacifique pour garantir la paix et la réconciliation sans exclusion. Mercredi, l'ambassadeur d'Algérie à Bamako a été convoqué par le ministère malien des Affaires étrangères qui a reproché à Alger des réunions avec des rebelles Touareg sans associer les autorités maliennes. En réponse, le chef de la diplomatie algérienne a rappelé que l'Algérie avait appelé le 13 décembre, à travers un communiqué, toutes les parties maliennes à renouveler leur engagement dans la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Alger a estimé que de récentes rencontres avec les chefs des mouvements signataires de l'accord de paix s'inscrivent dans la lettre et l'esprit de cet appel. Monsieur Attaf a appelé le gouvernement malien à s'associer à ses efforts pour donner un nouvel élan à l'accord de paix de 2015, devenu moribond avec la reprise des hostilités dans le nord malien. L'Algérie partage avec son voisin du sud près de 1400 kilomètres de frontières.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a fait pression le 17 novembre 2020 sur 2 agents électoraux républicains du Michigan qui venaient de voter pour la certification des résultats de l'élection présidentielle dans leur comté où le démocrate Joe Biden était arrivé largement en tête. C'est ce que révèle l'enregistrement d'un appel téléphonique rendu public par le journal The Detroit News. Les précisions avec Firmin Koyaweda.
Nous devons nous battre pour notre pays. Nous ne pouvons pas laisser ces gens nous voler notre pays, a-t-il dit à 2 républicains du comté de Wayne, Monica Palmer et William Hartman, lors de cet appel. La présidente du comité national républicain, Rona McDaniel, originaire du Michigan, a elle aussi participé à l'échange, déclarant pour sa part, si vous pouvez rentrer chez vous ce soir, ne signez pas le document. Nous vous trouverons des avocats, en faisant référence aux résultats officiels du scrutin dans le comté. Après avoir acquiescé, M. Trump a ajouté « Nous nous en occuperons ». Les deux responsables ont ensuite quitté la réunion de certification sans signer le document. Le lendemain, ils ont essayé sans succès de revenir sur leur vote favorable à la certification, prétendant avoir subi des pressions, rapporte The Detroit News. Ce que j'ai publiquement dit et répété à l'époque, c'est qu'il y avait de nombreuses preuves qui justifiaient un audit, a déclaré Mme McDaniel dans un communiqué. Le porte-parole de la campagne de M. Trump, Stephen Chang, a pour sa part déclaré au journal que l'ex-président entendait veiller scrupuleusement au respect des lois et garantir l'intégrité de l'élection, y compris en enquêtant sur l'élection présidentielle truquée et volée de 2020.
Des responsables américains de haut niveau se rendront prochainement au Mexique pour discuter de l'immigration entre les deux pays, a indiqué la Maison-Blanche, après un appel téléphonique entre le président Joe Biden et son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador. Les deux dirigeants ont échangé jeudi sur leurs actions visant à gérer les flux migratoires sans précédent sur le continent américain. La police américaine aux frontières fait état ces dernières semaines de quelques 10 000 passages par jour, un rythme plus soutenu que pour l'année fiscale 2023, au cours de laquelle elle a réalisé plus de 2,4 millions d'interceptions de migrants par voie terrestre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
Le Maroc, où l'agriculture est un secteur crucial, se dirige vers sa sixième année consécutive de sécheresse en raison d'une chute des précipitations ces derniers mois liées au changement climatique, indique son ministère de l'Équipement et de l'Eau. Les réservoirs du pays ne sont remplis qu'à 23,5% contre 31% l'an dernier. Face au stress hydrique, Rabat veut construire 7 stations de dessalement d'ici fin 2027. Il en existe actuellement 12. Pour terminer, la BAD veut apporter 55 milliards de francs CFA pour appuyer les finances publiques, l'économie forestière, l'énergie hydraulique, les marchés publics, les hydrocarbures et le secteur privé au Congo-Brazzaville.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonjour Mohamedou.
Super League, nouveau projet de tournoi européen à 64 clubs.
L'organisation A22 a proposé hier jeudi une nouvelle compétition européenne ouverte avec 64 clubs répartis en 3 ligues pour le tournoi masculin et 32 clubs répartis en 2 ligues pour l'édition féminine, s'appuyant sur la décision de la justice européenne sur la Super League. Cette structure créée en octobre 2022 ne dit rien du calendrier ni du niveau de soutien parmi les clubs européens, mais elle promet dans un communiqué une diffusion gratuite de sa compétition sur une plateforme de streaming baptisée Unify. A22 estime que la Cour de justice européenne a mis fin au monopole de l'UEFA en invalidant ses règles de 2021 interdisant la Super League et menaçant de sanctions ses clubs promoteurs et leurs joueurs. L'organisation prévoit par ailleurs des paiements de solidarité d'au moins 400 millions d'euros au football européen.
La Super League ne changera rien selon la FIFA et l'UEFA.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, relativise la menace d'une Super League privée de football. Historiquement, nous avons toujours organisé les meilleures compétitions au monde et ce sera également le cas à l'avenir, a assuré le patron du football mondial sur le réseau social Instagram. La FIFA va poursuivre dans cette voie en coopération étroite avec nos fédérations membres, avec les confédérations et toutes les parties prenantes du football, a-t-il conclu. Un peu plus tôt, le président de l'UEFA avait lui aussi minimisé l'impact de cette décision de justice en rappelant qu'elle portait sur des points de règlement de 2021 désormais obsolètes.
Mondial des clubs, Manchester City favori contre Fluminense.
Manchester City favori de la compétition affronte les Brésiliens de Fluminense en finale du Mondial des clubs vendredi à Jeddah en Arabie Saoudite lors d'une dernière édition à 7 clubs qui pourrait offrir un 4e trophée record à Guardiola dans l'épreuve. Le style pragmatique de l'entraîneur de Fluminense, Fernando Diniz, également sélectionneur du Brésil, tranche avec la possession boulimique qu'affectionne son alter ego Diego de Manchester City, Pep Guardiola. The Citizens, qui restent sur un quadruplé retentissant, Champions League, Coupe Premier League, Super Coupe de l'UEFA, veulent ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès qui s'est considérablement étoffée depuis leur passage sous pavillon Emirati en 2008. Le dernier club sud-américain à avoir inscrit son nom au palmarès de ce mondial est le rival de Flo, les Corinthians de Sao Paulo, vainqueur de Chelsea 1-0 à Yokohama en décembre 2012.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde, aujourd'hui, sur VOA Afrique. Mouamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. En République démocratique du Congo, le vote pour la présidentielle, les législatives et les locales s'est poursuivi hier dans des bureaux de vote où l'élection n'a pu avoir lieu mercredi. Eddie Sango a fait le tour de certains bureaux où le scrutin a continué. Reportage.
Léon Pierre Moulumba, observateur de l'OSPC. Dans ces sites de vote, on avait prévu 8 bureaux, mais 6 bureaux ont eu à fonctionner et 2 autres ont reçu des machines en retard. Et aujourd'hui, on a doté à ces bureaux-là des machines et les électeurs continuent à voter. Il n'y avait pas tellement des électeurs parce que d'autres bureaux avaient déjà libéré leurs électeurs et les 2 autres où les électeurs étaient en attente, ont débuté aujourd'hui dans un climat de paix. Et ça se passe comme ça, ça se déroule comme ça. Et jusque-là, ils sont en train d'attendre quand même les retardataires parce qu'ils ne doivent pas fermer. Les bureaux sont ouverts pour ceux-là qui sont à la maison, ceux-là qui tardent encore les pas, de venir s'acquitter de leurs devoirs civiques.
Mbobolé l'adieu. Oui, j'ai voté jeudi. Nous tous, on pensait qu'on ne va pas voter. Mais quand on a prolongé, ce qui a fait qu'on puisse avoir la joie quand même de voter et de sentir qu'on est aussi des électeurs pour voter. On a des témoins, on doit vraiment veiller à ce que ça puisse bien passer, qu'il ne puisse pas être dans des tricheries.
L'oral le commun. Le vote s'est passé bien, s'est déroulé bien. Là, on attend les résultats. De salle par salle, c'est pourquoi on est jusque là, on est encore là. Oui, parce que je suis témoin de l'IDPS, mais j'espère que tout va passer dans les bons. Depuis moi, on va faire salle par salle, ça peut arriver jusqu'à 1h, 2h, et comme ça, on va afficher les résultats.
Déjà ici, ceux qui ont voté hier, on n'a pas encore dépouillé, on n'a pas encore publié les résultats.
Non, jusque là, pas encore.
Donc vous allez attendre peut-être jusqu'à
0h à 1h.
Vendredi ou samedi.
Oui, oui.
Kinyang Laetitia Christine, coordinatrice de l'ONG Colissa. Nous avons suivi les déroulements du vote hier et il s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui suite aux difficultés que la Commission électorale nationale indépendante a rencontrées dans les déploiements des machines de vote et logistiques nécessaires au déroulement du vote. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on continue à voter. Les dépouillements, dans certains bureaux, ça a été fini. Les bureaux qui ont commencé effectivement à temps ou avec un léger retard. Nous avons reçu déjà des rapports de certaines équipes à l'intérieur du pays qui ont dit qu'à certains endroits, il y a eu quelques irrégularités, quelques difficultés et voire des bavures.
Restez branchés sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Toujours en rapport avec les élections générales en RDC, des centaines d'habitants de la ville de Goma qui avaient passé la journée mercredi devant les bureaux de vote sans pouvoir voter sont revenus jeudi matin accomplir leurs devoirs citoyens. Malheureusement, beaucoup d'autres n'ont pas eu l'occasion de participer à ce processus. Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma, nous en dit davantage.
Jeudi 21 décembre, à 7h du matin, Cédric, la vingtaine, se retrouve au centre des votes où il a enfin déposé son bulletin dans l'urne après avoir manqué l'occasion de le faire hier, mercredi. Il s'est dit heureux d'avoir enfin voté et satisfait de l'organisation les jours du repêchage par rapport à la veille.
d'après toi.
Après avoir voté, il est impératif de se sentir très bien parce qu'on a choisi les candidats de son choix et qu'on veut voir des bonnes choses se produire pour le pays. Aujourd'hui, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de désordre, tout s'est bien passé.
Parmi les désordres mis en évidence figure l'omission de certains électeurs sur les listes affichées par la CENI, des cas isolés qui auraient dû être traités par les responsables des centres de vote, mais qui, selon Biamungu Bihango, un observateur, ont été ignorés.
Un certain nombre de personnes qui avaient retiré leurs cartes sont arrivées et n'ont pas trouvé leur nom sur les listes affichées. Ces situations ont conduit ces Congolais à rentrer chez eux sans avoir voté, alors que les votes étaient un droit pour tout citoyen.
Si certains électeurs ont pu participer aux élections ce jeudi, ceux des zones contrôlées par les rebelles du M23 ont vu leur sort scellé. Jeanne, une déplacée qui a reçu sa carte pour sa toute première fois dans les territoires des Rutshuru, a assisté, impuissante, à l'empêchement de son vote.
Je voulais vraiment voter. Je n'ai jamais voté de ma vie. Je me sens vraiment mal. D'autres personnes de mon âge sont allées voter. Je voulais ressentir la joie d'accomplir ce devoir civique, mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné.
Les élections sont donc terminées aujourd'hui à Goma et il s'agit maintenant de compiler et d'afficher les résultats dans chaque bureau des votes en attendant la proclamation des résultats provisoires le 31 décembre selon le calendrier de la commission électorale. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Bénin, le président Patrice Talon a délivré hier, devant l'Assemblée nationale, son discours sur l'état de la nation. Il a souhaité la fin du bras de fer entre le Bénin et le Niger, né des sanctions prises par la CEDEAO après le coup d'État ayant renversé le président nigérien, Mohamed Bazoum. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
S'achemine-t-on vers la réouverture de la frontière, le rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger? Patrice Talon en a donné le ton dans son discours jeudi matin sur l'état de la nation. La situation crée d'importants manques à gagner aux deux pays et le président béninois reconnaît n'avoir jamais voulu compliquer la vie aux populations béninoises et nigériennes en se rangeant du côté de la CEDEAO. Patrice Talon.
Nous croyons à la coexistence pacifique des nations et des peuples. C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. Le Bénin n'a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations, de leur rendre la vie encore plus difficile. C'est pourquoi il n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répéter des messages à ces pays frères, notamment le Niger. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte.
David Kaba, journaliste consultant en décentralisation et développement local, se réjouit de ce clin d'œil fait aux autorités nigériennes et espère le retour rapide de la paix entre le Niger et le Bénin.
Les propos du chef de l'État viennent complètement baisser la tension. La lecture que j'en fais, c'est un bras tendu, de façon solennelle, de façon publique aux autorités du Niger. Pour moi, c'est quelqu'un qui opiniâtrement défend cette position et que je n'attendais vraiment pas là. Ça a été pour moi une très belle surprise. Il faudrait aussi un effort de la part des autorités nigériennes pour qu'ils puissent parler de la même voix et aboutir à une bonne relance du développement du pays.
La fermeture de la frontière a durement impacté l'économie béninoise, mettant en mal le commerce transfrontalier ainsi que les activités au port autonome de Cotonou. Pour Gaëtan Avoignon, acteur politique et membre du parti Renaissance Nationale, cette posture qu'affiche désormais Patrice Talon par rapport au Niger est la meilleure.
Personnellement, je voudrais que nous ne nous mêlons
pas de ce qui va créer un clivage entre le peuple. Le chef de l'État aurait dû vraiment porter des gants. Je pense qu'il n'y a pas de suggestion que le chef de l'État doit faire au Niger, clarifier la politique de transition. Je pense que c'est le chef de l'État devrait s'occuper du bien-être de la population.
Pour Yannick Maouillon, analyste programmeur de formation et très porté sur les questions en lien avec le panafricanisme, Patrice Talon fait enfin preuve de réalisme.
On ne peut pas soutenir un coup d'État, mais nous devons faire preuve de tact, d'intelligence, de réalisme.
Pour cela, Patrice Talon attend un geste des autorités nigériennes qui, selon lui, doivent jouer leur partition en rassurant, en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de la communauté internationale. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Togo, la consommation de l'alcool, du cannabis et autres substances psychotropes par les jeunes élèves prend de l'ampleur, malgré les stratégies mises en place par les autorités pour combattre la consommation des drogues et de stupéfiants en milieu scolaire. Les résultats tardent à venir. Les associations, les établissements scolaires et d'autres entités se mobilisent pour une sensibilisation plus accrue contre ce phénomène. De Lomé, notre correspondant Kossi Boussou.
Isidore Moncho Ayaovi est le coordinateur de l'ONG Croix Bleue, une structure de lutte contre la drogue au Togo. À son corps défendant, il constate que la consommation de différents types de drogues est en hausse chez les jeunes élèves du Togo.
Le constat que nous faisons aujourd'hui est un peu alarmant. En 2018, nous avons mené une étude en milieu scolaire et extrascolaire. Sur les 100% des enquêtés, il y avait au moins qu'en 8% qui consommaient déjà ces substances psychoactives. Nous voyons aujourd'hui qu'après plusieurs années de combat et surtout à la suite de Covid-19, il y a une recrudescence de la consommation de ces substances psychoactives en ces dernières années.
Et tout y passe. Alcool, cannabis, tramadol et ses produits dérivés. Au palais de la justice de sa localité, Pandiaoué et Sowou, substitut du procureur du tribunal de la ville d'Anero, voient défiler de plus en plus d'élèves.
Quand il vous arrive de recevoir un déferment et dans la vérification de l'identité du mis en cause, vous vous rendez compte que c'est un élève qui impliqué dans la consommation ou dans la détention de ces substances psychotropes. Sincèrement, c'est le cœur meurtri que nous sommes parfois amenés à envoyer nos jeunes frères élèves en prison et sincèrement, ça nous interpelle.
Conscient de la situation, le gouvernement a mis en place des stratégies qui visent à prévenir les comportements addictifs chez les jeunes en milieu scolaire. Au lycée d'enseignement technique de Glidikpoudi, le proviseur Dieudonné Amela organise des séances de sensibilisation et n'a pas hésité à solliciter l'appui d'autres structures.
Effectivement, le substitut du procureur est là pour parler des sanctions prévues par la loi en cas de transgression. Le psychologue est là pour parler comportement ou bien attitude négative de l'élève qui consomme la drogue.
Isidore Moncho Ayaovi estime que le gouvernement doit être ferme sur certains aspects de la lutte comme il a été pour la chicha.
Un simple décret a suffi pour que ces consommateurs de chicha qui s'installent au bord des voies disparaissent.
Cet Oglo Kossi, éducateur, en appelle à la conscience des parents d'élèves.
Les enseignants et les autorités font ce qu'ils peuvent pour sensibiliser nos enfants. Mais il faut que les parents aussi s'investissent davantage en surveillant au mieux leurs enfants pour qu'ils ne touchent pas à la drogue. Leur avenir en dépend.
Kossi Boussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa, ainsi va Le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, un seul site internet à visiter 24h/24, c'est www.voafrique.com. Sans oublier nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube et X, anciennement Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Cette édition du Monde aujourd'hui et de tous les programmes de La Voix de l'Amérique sont disponibles sur notre site internet. Au revoir.